Retrouvez toutes vos émissions préférées en podcast en téléchargeant dès à présent l'application Mon Paris FM sur Apple Store ou Play Store. Radiophoniquement. Mon Paris FM.
Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'en profite pour vous souhaiter une excellente année avec santé, bonheur, joie, réussite, tout ce que vous voudrez. Raconte ta parentalité. Aujourd'hui, j'ai l'honneur et le plaisir d'être avec Gwenola. Parents, c'est le plus beau métier du monde, alors pourquoi ne pas le raconter? Vous le savez bien, à chaque épisode, je reçois un invité qui raconte sa parentalité ou comment il l'a vécu. Et tout de suite, je vous laisse découvrir Gwenola. Comment tu vas?
Bonjour, ça va, merci de m'accueillir, très bonne année, qu'elle nous soit prometteuse
ouais.
Et qu'elle nous apporte de belles choses, surtout la santé.
Merci, Gwenola, est-ce que tu veux bien te présenter? Donc Gwenola Montero,
c'est ça.
Tu veux bien nous dire quel âge tu as, ta composition familiale?
Alors, donc Gwenola, j'ai 39 ans, bientôt 40, j'ai trois enfants. On va dire quatre parce qu'on est une famille recomposée.
D'accord.
Donc j'ai quatre enfants et puis j'ai mon conjoint avec moi.
Voilà. D'accord. Quel âge ont tes enfants? Tes quatre enfants, quel âge ont-ils?
Alors la première, donc c'est Imane, une fille, elle a 14 ans. Ensuite on a Caïs qui a 10 ans. Meïssa, un garçon également qui a 7 ans. Et puis le dernier, Bilal, qui a 2 ans.
Ok. Alors pour commencer, on aimerait savoir qui est Gwenola, quelle petite fille tu étais. Est-ce que tu peux te replonger un peu dans tes souvenirs et nous dire quelle petite fille tu étais? Est-ce que tu as vécu avec tes parents? Est-ce que tu as une fratrie? Raconte-nous tout.
Alors Gwenola, on va retourner dans le passé. J'ai grandi avec mes parents. J'ai une grande sœur, un grand frère et puis un petit frère.
D'accord.
Donc on a grandi à 6. Dans une petite campagne de Bretagne, j'ai grandi dans une famille aimante, des parents qui ont toujours fait en sorte qu'on soit bien, de tout nous donner, on a manqué de rien. On a eu des parents qui ont énormément travaillé pour qu'on puisse tout avoir. Donc j'ai eu la chance de grandir dans une famille qui nous ont donné beaucoup de choses et avec des frères et sœurs avec qui on s'entendait extrêmement bien.
Okay.
Donc voilà.
Dans ta famille, du coup, dans laquelle tu as grandi, une famille aimante, on a bien compris, donc une famille composée de 6 individus.
C'est ça.
Comment tu as trouvé ta place dans cette famille? Est-ce que tu étais. Donc toi, tu es la troisième?
C'est ça.
Est-ce que tu étais plus proche de l'un de tes deux parents? Est-ce que c'était une famille dans laquelle il y avait de la communication? Ou plutôt des injonctions? Comment ça se passait?
Alors en fait, je suis la troisième et considérée comme la dernière.
D'accord.
En fait, pour tout dire, mon grand frère a 2 ans de plus que moi et mon petit frère a 3 ans de moins que moi.
D'accord.
Après, il y a la grande sœur, mais qui est beaucoup plus âgée. Mais comme mon petit frère est un garçon, donc et que moi je suis la dernière fille, donc forcément mon petit frère est considéré comme le plus grand. Surtout
okay.
qu'il fait 1m92 et que moi 1m62, donc souvent on m'a souvent considérée comme la dernière. Et ensuite, au niveau des parents, nous, dans notre famille, c'est vrai que déjà, les filles, il y avait une différence entre les filles et les garçons.
D'accord, donc il y avait une éducation différenciée.
Exactement.
Tu nous racontes comment ça se matérialise?
Oui, bien sûr. Alors, un exemple, les garçons avaient le droit de sortir. Nous, par exemple, une fille n'avait pas le droit de sortir jusqu'à ses 18 ans.
Ok.
Et je dis 18 ans, mais finalement, jusqu'à ce que tu puisses avoir un âge d'habitation.
C'est ça, jusqu'à ce
voilà.
que tu quittes.
Voilà, c'est ça. De base, c'est ça. C'est vrai qu'il y avait... Alors, j'ai grandi dans une famille aimante, ça je l'ai dit tout à l'heure. Non, c'est vrai qu'il y avait... pas tant de communication que ça. Il y avait des tabous, il y avait des choses où on ne pouvait pas parler. À l'inverse d'aujourd'hui.
Comme quoi, par exemple,
Je prends un sujet de base, la sexualité. On ne parlait pas de ça avec les parents. C'était interdit, c'est tabou.
Ouais, c'est tabou, ça n'existe pas.
Voilà. Et puis quand on parle avec les parents, c'est je dis, tu fais. Il n'y a pas forcément d'explication sur les choses. Je ne dis pas que c'est mal. Hein. Aujourd'hui, je suis très bien. C'est une éducation que mes parents ont voulu nous donner et qui a été très bien. Et après, quand tu me posais la question, moi, j'étais beaucoup plus proche de mon papa.
D'accord.
Oui, beaucoup plus proche de mon père. Donc il y a l'enfance, puis arrive le moment de l'adolescence. Comment t'étais toi à l'adolescence?
Alors, à l'adolescence, je me recherchais, je pense. Je pense que c'est. Des fois, c'est dur quand on ne peut pas forcément communiquer avec ses parents. Et qu'on a. On voit les autres faire certaines choses, avoir des petits copains, etc. Après, j'ai eu cette chance quand même d'aimer l'école. Donc, j'avais ça, j'avais le sport. Je faisais l'athlétisme, donc j'avais ça. Mais c'est vrai que des fois, on se recherche parce que on a l'impression de ne pas être comme les autres, parce qu'on n'a pas forcément les mêmes droits que les autres. Et des fois, ça pouvait poser effectivement une problématique qu'on ne disait pas forcément.
On vit avec, mais
Exactement.
y a quand même, c'est là, en
C'est
tout cas.
là, mais voilà.
17 ans, on fait un bond, 17 ans, j'aime bien m'arrêter sur la 17e année parce que c'est la dernière avant d'entrer dans la majorité et en même temps, on est encore considéré comme un enfant. Comment se passe à l'aube de ta majorité? Est-ce que tu as un peu plus de droits? Est-ce que tu sors un peu plus? Est-ce que tu visualises Gwenola maman ou en couple ou est-ce que pas du tout?
Alors, à 17 ans, à l'aube de ma majorité, je sortais mais qu'avec mes frères, jamais seule. Ensuite, Gwenola, maman, non, je voulais pas d'enfant. Je voulais pas du tout d'enfant parce que j'ai pas forcément une relation où je pouvais communiquer avec ma mère. Et je me disais que peut-être que je n'arriverais pas à éduquer mes enfants. Donc je me disais, les enfants des autres, oui, de mes frères, de ma sœur. Mais moi, de base, je ne voulais pas d'enfant. Je ne me sentais pas capable d'éduquer un enfant. Et je pensais plus à, une fois que je suis partie de chez mes parents, à un peu voyager, déménager, rencontrer de l'humain et voir d'autres choses que de penser à avoir des enfants.
T'es tata vers quel âge? Parce que du coup, t'as des aînés.
Oui, alors je suis tata, alors un peu plus tard, vers 23 ans par là, avec mon grand frère. Ouais.
Et du coup, ce neveu ou cette nièce,
Cette filleule même.
cette filleule, cette nièce filleule,
Ouais.
comment elle arrive dans ta vie? Est-ce que là, il y a quelque chose qui joue dans la relation à elle?
Bien sûr.
En plus, tu dis que toi, t'as pas beaucoup communiqué avec ta maman, mais du coup,
Ouais.
est-ce que tu as été une tata communicante, aimante, présente?
Ah oui, énormément. C'était déjà, c'est la première de la famille, la plus grande, et bien sûr, on lui a donné, et on lui donne encore tout l'amour qu'on peut lui donner, et très proche d'elle, à m'en occuper comme si c'était ma fille, jusqu'à aujourd'hui encore. Donc, oui, très proche de la première de la famille.
Tu rencontres l'autre, on va l'appeler l'autre pour l'instant.
D'accord.
Tu rencontres l'autre vers quel âge?
Ouh, très tard! Très tard, je rencontre l'autre vers 28 ans.
28 ans.
28, 29 ans, oui.
Alors, avant qu'il arrive dans ta vie, on va s'épancher sur son cas très longuement, mais avant qu'il arrive dans sa
Ouais.
vie, les premières expériences amoureuses, est-ce qu'il y en a, est-ce qu'il n'y en a pas? Est-ce que du coup, tu sais déjà vers ce que tu veux pas, comme style de conjointe, on a tous un style.
Oui, mais en fait, moi, alors déjà, d'une part, déjà, j'avais dit que je voulais pas d'enfant, mais en plus de ça, de relations, encore moins. Voilà. Donc, j'étais pas quelqu'un qui voulait sincèrement me poser avec quelqu'un. Je suis plutôt quelqu'un qui fuyait, en fait, les relations. À partir du moment qu'elles devenaient sérieuses, je fuyais réellement mes relations. Je pensais plus à travailler, j'étais plus carriériste. Je pensais plus à faire quelque chose de ma vie professionnelle que personnelle. Ce qui est. Avec du recul, ce qui a sans doute été une erreur, parce que c'est pas forcément bien de mettre que sa vie professionnelle en avant, mais c'est ce que j'ai fait durant au moins une dizaine d'années quand je suis partie de chez mes parents.
C'est comme ça que tu le ressens en fait.
Voilà, moi j'avais que ma carrière professionnelle, je voulais faire quelque chose au niveau professionnel et tout ce qui était personnel, sentiment, tout ça, je fuyais tout ça.
Et du coup, qu'est-ce que tu voulais faire professionnellement parlant? Est-ce qu'aujourd'hui tu fais ce que tu as toujours voulu faire ou est-ce que tu t'étais orienté vers une autre voie, tu t'as bifurqué entre-temps?
Ben, tout à l'heure, on parlait de l'aube de ma majorité. À 17 ans, je me disais toujours, je vais être chef d'entreprise. Je vais partir de chez mes parents à 18 ans et je vais travailler, je vais être chef d'entreprise et je vais y arriver. Voilà, c'est juste l'idée que j'avais en fait.
D'accord. Et aujourd'hui, tu es chef d'entreprise.
Exactement.
Ouais, donc, tu as réalisé ton voilà. rêve. 28 ans, du coup, comment il s'appelle ? Tu le rencontres ? Comment ça se passe ? Je suis une gamine, je veux tout savoir. Comment vous rencontrez ? Comment la magie opère ?
Là, je n'ai pas le droit de mentir. Donc, on va dire la vérité.
Tu n'as pas le droit de mentir.
Je vais dire toute la vérité. En fait, je le rencontre, mais on se connaissait de vue déjà.
D'accord.
Alors, comme quoi la persévérance paye, je vais dire toute la vérité. Ça faisait 4 ans qu'on se connaissait de vue. Mmh. Et c'est vrai, comme disent les jeunes aujourd'hui, j'avais un petit crush pour lui. Mais comme j'étais pas focus sur ça, bon voilà, je laissais passer. Et jusqu'au jour où on a eu des vacances ensemble, on était avec des amis en commun. On est parti à Londres, bon, pour tout dire. Et à ce jour-là, on a pu se parler. Et puis on a beaucoup échangé, donc moi j'étais contente, ça faisait 4 ans que je l'avais quand même vu, 4 ouais. ans quand même.
4 ans que tu le trouvais
et
mignon.
Et qui ne savait pas que je le trouvais mignon et que je l'aimais bien. Et donc on a pu échanger nos numéros et puis voilà quoi, en fait, l'histoire amoureuse commence.
L'histoire amoureuse commence. Qui fait le premier pas du coup ? Parce que toi tu l'avais à vue, mais qui enclenche cette relation ? Est-ce que tu lui dis ou est-ce que ça se fait naturellement
Alors non, moi non. Moi, je ne sais pas faire ça.
T'as rien dit ?
Alors, moi, je serais capable de rester 10 ans comme ça. Non, 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 moi, je n'ai rien dit. C'est lui qui a commencé à me parler. Et au bout d'un moment, donc, moi, je me suis ouverte. Et effectivement, je lui ai fait comprendre que j'étais intéressée. Mais plus tard, quand on était vraiment ensemble, je lui ai dit que ça faisait 4 ans que je l'aimais bien.
Ouais, ok.
Mais sinon, je ne l'aurais jamais.
En fait, plus tard, tu lui annonces que tu as gagné.
Voilà, exactement.
Du coup, quand vous sortez ensemble, à quel moment vous décidez de vivre ensemble et d'être un couple ? Est-ce que ça se décide ? Est-ce que ça ne se décide pas ? Est-ce que vous vous mettez d'abord en ménage ou est-ce que vous vous mariez avant ? Tu m'en racontes un peu.
Alors, ça a été très vite. Et ça n'a pas été dans les, comme on peut dire, dans les codes, on va dire. Ça a été très vite, en fait. Il est arrivé dans ma vie quand même un moment où c'était très dur.
D'accord.
Où j'étais vraiment au plus bas. Et il m'a beaucoup aidée. Donc, on s'est mis ensemble très vite. Et je suis tombée enceinte très vite.
D'accord.
Moi qui ne voulais pas d'enfant, je me suis tombée enceinte très vite. Et
bébé surprise, du coup ?
Non, ce n'était pas un bébé. Enfin, si c'était... Enfin, en fait, pour tout expliquer, on était vraiment dans l'euphorie, dans l'amour fou, ouais. etc. Oui, on va avoir un enfant, oui, pas de problème. Et puis moi, à un moment donné, peur que j'ai eue comme d'habitude. Non, 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 en fait, non. Non, 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 je ne veux pas. Non, ce n'est pas possible. Et finalement, bah, c'était trop tard.
Okay.
Le bébé est arrivé, donc... Surprise pas, je dirais non, parce que finalement, on l'a quand même cherché. Et du coup, bah voilà, au bout de quelques mois, je me suis retrouvée enceinte. Et puis, l'aventure a commencé réellement et sérieusement, en fait.
Mmh. Tu dis que vous rencontrez un moment où toi, tu n'étais pas spécialement bien. Est-ce qu'on s'arrête un petit peu là-dessus ?
Oui, je veux bien.
Ouais, c'est important parce que, comme on le dit tout le temps, on raconte ta parentalité, c'est aussi pour que chaque parent puisse se rendre compte que bah, on a des histoires, on a des vécus, on a des blessures. Elles vont nous permettre de nous construire et aussi dans notre parentalité un peu après, mais que finalement, on est tous les mêmes. On a tous nos hauts et nos bas. À ce moment-là... Qu'est-ce qui arrive à Gwen ? Est-ce que c'est psychologique ? Est-ce que c'est le constat de ce que tu as réalisé dans la vie ? Qu'est-ce qui fait que tu n'es pas au plus haut de ta forme à ce moment-là ?
Alors moi, je me suis convertie à l'islam. Je suis de base chrétienne. Je
D'accord.
me suis convertie à l'islam quand j'avais 19 ans.
Okay.
Mes parents l'ont su, mais... ils ont toujours été, on va dire, dans le déni, en fait. Ils l'ont su, donc par exemple, à la maison, ils faisaient des places en son port, voilà. Ils le savaient, mais il y avait le déni. Et en fait, quand je suis partie de chez mes parents, donc j'ai beaucoup changé de ville, en fait.
D'accord.
Je changeais énormément de ville de par rapport au travail ou par rapport aux études, etc. Et à un moment, je devais aller dans le sud et je suis allée chez mes parents le temps de préparer mon projet d'aller dans le sud, en fait. Et c'est vrai que ça faisait déjà 10 ans, finalement, que j'étais convertie. Et je sais pas, ils sont tombés sur un Coran, etc. Et je sais pas, ça a remonté peut-être des choses en eux, je ne sais pas. Et en fait, mes parents ont décidé de me renier en fait de la famille. C'était très tard, mais ça a été fait. Et c'est vrai que j'étais reniée de la famille pendant un petit moment. J'avais que effectivement mon grand frère et ma grande sœur qui étaient là pour moi, surtout mon grand frère. Et du coup, c'était un moment qui était, c'était une période qui était très difficile pour moi parce que je savais que bah, la religion m'a aidée sur beaucoup de choses et que je ne voulais pas. Je me suis convertie, donc je n'ai pas quitté ma
Ouais,
religion.
tu te sentais
Mais je
dans un choix.
respecte, voilà, je me suis convertie, mais je respecte mes parents. Je ne suis jamais allée chez mes parents en leur disant, voilà, je me suis convertie, convertissez-vous. Enfin, voilà. Non, je respecte mes parents, je respecte leur religion, je respecte leurs valeurs, leurs principes, etc. Mais c'est vrai que je peux comprendre les parents parce que chacun a sa vision des choses. Mais c'est vrai que c'était une période qui a été très dure, très, très dure.
Et puis c'est vrai qu'en tant que parents, on se projette sur nos enfants inévitablement. Comme tu disais, il y a des valeurs, mais il y a les valeurs d'éducation, mais il y a aussi les valeurs
Bien
spirituelles,
sûr,
religieuses
bien
qui
sûr.
sont là, qui prônent. Donc quelque part, quand notre enfant se reconvertit, peut-être qu'on se demande, je peux pas le dire parce que moi, en tant que maman, en tout cas, c'est pas arrivé, mais peut-être qu'on se demande, mais qu'est-ce qui a pas été ou qu'est-ce que j'ai mal expliqué ou fait pour que
Bien
mon
sûr.
enfant y... D'accord. Donc on comprend mieux cette difficulté. Tu dis j'ai pas voulu revenir sur mon choix. Ça veut dire que quand même, c'est poser la question de est-ce que je renonce pour ne pas perdre mes parents en quelque sorte. En plus, tu étais dans la transition pour ton projet de vie dans le sud. Du coup, ça accélère ton départ ou...
Oui, ça accélère mon départ et mais beaucoup de questions, beaucoup de remises en question aussi. Il faut savoir que mon père était un militaire de carrière, donc il a fait plusieurs guerres et peut-être que, comme je disais, il y a des choses qui sont remontées, peut-être que qu'il a pensé à des choses, j'irai pas dans le détail, mais peut-être qu'il a pensé à des choses que j'aurais pu faire ou quoi que ce soit, et il était dans le faux. Mais je peux comprendre, parce que finalement, tout ça, toutes ces problématiques-là, c'est juste un manque de
Bien
communication.
sûr.
Et il faut se le dire, nous, dans notre génération, on n'a pas énormément communiqué avec nos parents, ce qui a créé des conflits. Et ce qu'on veut éviter aujourd'hui, et je pense que la communication, c'est une base. Mais aujourd'hui, voilà, tout va bien, et je pense que c'est la communication.
Mais c'est ça, en
C'est
fait, ça
juste
se
ça,
rétablit avec le temps, en
exactement,
fait. Et
exactement.
puis la preuve, ça veut dire que le fait de dire que ça change rien de façon intrinsèque à qui on est, c'est une chose, mais le fait que les gens puissent le constater. Ça veut dire
Bien
que
sûr,
dans ta pratique,
c'est ça.
ils ont vu que leur fille, elle n'a pas changé, qu'elle a les mêmes valeurs et qu'elle est épanouie. Et
C'est surtout
finalement,
ça,
que
ouais.
peut-être les dérives qui sont en teinte de fond, qui font peur, bah, elles ne se sont pas manifestées. Comme tu as dit, tu as été dans le respect de ce qu'ils sont, de ce
Bien
qu'ils
sûr.
incarnent. En tout cas, contente que ça aille mieux aujourd'hui. Tu es enceinte, du coup.
Voilà.
Comment se passe cette grossesse? Est-ce que vous en parlez? Est-ce que vous vous projetez? Est-ce qu'on peut avoir le nom de ce cher et tendre.
Alan.
Alan, on peut te nommer maintenant Alan, ça y est, tu es définitivement dans l'histoire. Donc, est-ce qu'avec Alan, vous projetez dans cette parentalité à venir?
Alors, comme je disais tout à l'heure, Alan, déjà, il avait déjà une fille. Donc, lui, il était déjà dans la parentalité. Moi, j'avais un peu plus peur, on va dire, de ne pas savoir faire, comme je le disais au début. On se projette, on se. Bah, moi, je suis dans le sud, je suis obligée de remonter parce qu'il est sur Paris.
D'accord.
Donc, il faut faire un choix. Donc, forcément, il me demande de remonter sur Paris. Et donc, on remonte sur Paris, on va chez sa maman pendant un petit temps, le temps de trouver un appartement et de pouvoir commencer la vie à trois. Parce que sa première fille vit au Sénégal, donc elle est là que pendant les vacances.
D'accord.
Donc, voilà.
C'est super intéressant là ce que tu viens de dire. Ça veut dire que cette grossesse, elle va être vécue chez ta belle-mère.
Oui.
Comment ça se passe? Comment ça se passe l'installation chez tes beaux-parents? Est-ce que c'est un couple ou est-ce que c'est juste la maman?
C'est juste la maman.
D'accord. Du coup, comment ça se passe chez ta belle-mère? Ton arrivée, comment t'es accueillie? Comment tu trouves ta place en tant que belle-fille du coup?
Sa maman est très 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 gentille, très très gentille, très proche de son fils, donc très bien accueillie.
Ok.
Après, comme on dit souvent, on ne peut pas avoir de femmes dans une maison. C'est très compliqué.
C'est dur.
Même si on le souhaite, ce n'est pas possible. Mm. Ce n'est pas possible. Donc, à un moment donné, on se dit qu'il faut trouver un logement très rapidement, ce qui est normal, hein, parce qu'on ne peut pas, c'est chez elle et on ne peut pas prendre, deux personnes ne peuvent pas prendre des décisions, ce qui est normal. Et puis, ça reste chez elle et puis c'est à nous de partir.
Et puis, tu es la génération d'en dessous, en plus.
Exactement. Donc, déjà on n'a pas d'autre mot à dire. Et puis, on a dans notre génération, je parle de nous, hein, dans notre génération, on a ce respect. Mm. Moi, la belle-mère, je la vous vois. Mmh. C'est un signe de respect chez nous. Et puis on ne parle pas mal à une belle-mère, on ne répond pas à une belle-mère. C'est des valeurs qu'on a et des principes. Et puis voilà. Et ouais, donc, au bout d'un moment, on se dit, ouais, on
faut partir. quand vous déménagez, du coup, pour être chez vous, t'es encore enceinte ou t'as déjà accouché?
Alors, je n'ai pas encore accouché,
okay.
Mais c'était très dur parce que Alan ne voulait pas vraiment partir. Lui, il était bien chez lui,
bah oui.
Il était dans son quartier, il était avec ses amis, ses potes, etc. Donc, c'était très dur de le faire partir.
Puis les deux femmes de sa vie.
Oui,
hein.
Mais voilà, c'est ça. Et puis, il a son frère aussi. Il est très, très proche de son frère. Et ils sont très, très proches. C'est beau parce qu'ils sont une famille très, très, très proche. Ils sont très solidaires et on n'a pas envie de casser ça non plus. Mmh. Mais bon, après, il faut qu'il fasse sa vie de famille également. Et ce n'est pas pour autant que ça a cassé quoi que ce soit, au contraire.
Tu as culpabilisé un peu de ce moment ?
Un petit peu parce que sa maman est seule avec ses deux fils. Mmh. Et d'enlever le premier, parce que c'est le plus grand, bien sûr, on culpabilise. Et on comprend la belle-maman qui nous en veut indirectement, sans forcément le dire officiellement, mais elle nous en veut indirectement, mais ça se comprend.
Ouais.
Parce qu'elle est toute seule avec ses fils, et ses fils sont là, l'aide, s'occupe d'elle. Et à un moment donné, il y a une femme qui vient, qui prend son fils, le plus grand, et qui dit, je le prends, on va avoir des enfants, salut, au revoir.
Et puis en plus, la transition, elle est un peu particulière, parce qu'en général, t'arrives, ton enfant, il va te dire ça y est, je me mets en ménage, je m'en vais, mais il part tout de suite, alors que toi en fait tu viens à la maison, tu t'installes, donc en fait tu as quand même cette illusion peut-être de les garder, de vous garder en fait, toi, son fils et puis ce bébé qui arrive. Ouais. En tout cas, vous partez. La perte des os, est-ce que tu perds les os, tu perds pas les os, le moment de l'accouchement, comment ça s'annonce?
Ouh,
est-ce que tu t'en souviens?
Oui, non, je m'en souviens très bien. C'est pas très bien passé.
Non.
Non, je m'en souviens très, très bien. Oui, je perds les os à l'hôpital. Ils ne voulaient pas me garder. Je force l'hôpital à me garder. Je sens que je vais accoucher. Je sens mes contractions. Dans le monitoring, ils ne voient pas mes contractions. Donc, ils pensent que je suis en train de mentir.
Alors ils que toi, parlent... tu les sens?
Non, je les sens et je dis, je vais rester ici. Et ils parlent à Alan en disant, il faut parler à votre femme. Il faut lui dire de partir. Alan essaye de me parler. Je lui dis, je te préviens.
Je reste.
Si tu les écoutes, tu vas voir ce qui va t'arriver. Donc bon, ils ont décidé de me garder. Il a dit, bon, je te laisse ici. Je vais aller dormir. Et du coup, j'ai perdu les os à l'hôpital et j'ai eu raison de rester à l'hôpital.
Tu les as forcés.
On sait quand même. On sait.
Donc,
quelque chose qui fait qu'on sait.
À ce moment-là, tu squattes, quoi.
Ouais,
tu dis, vous me donnez une chambre.
Exactement.
Tu perds les os. Alan revient dans les temps.
Non, pas dans les temps.
D'accord.
Il dormait, je l'ai appelé. J'ai perdu les os, il va falloir que tu viennes. Je viens tout de suite ou je peux encore dormir? Les hommes.
Il arrive pour l'accouchement. Il assiste à l'accouchement.
Oui, il est à côté de moi, il assiste.
Ok. T'accouches par voix basse?
Oui.
Ouais. Du coup, la rencontre.
Ouais.
Ça y est, t'as accouché après avoir forcé l'hôpital à te garder.
Exactement.
Comment se passe cette première rencontre avec ton bébé?
C'est inexplicable. C'est magnifique. Surtout que j'ai eu la chance d'avoir Alan à côté de moi. Je sais que c'est pas la même chose pour tout le monde.
Mmh.
Moi, j'ai eu la chance d'avoir Alan et de pouvoir vivre ce moment avec l'homme de ma vie et de se dire que cet enfant est à nous, on l'a conçu. Enfin, c'est inexplicable. Je crois qu'il n'y a pas les mots pour ça.
Et lui, comment ça se passe pour lui? Parce que du coup, nous, en tant que maman, on porte l'enfant, on le sent bouger, on sent les contractions. Et ceux qui disent que c'est génial et que ça fait pas mal sont des menteuses.
Exactement.
Ça fait super mal. Mais lui, du coup, il rencontre son bébé au moment où tu le mets au monde. Est-ce qu'il est dans l'émotion? Est-ce qu'il est dans la joie?
Il est content parce que c'est un garçon. C'est son premier garçon.
Ouais, du coup.
Donc, il est vraiment très, très, très heureux.
Et bah, ça lui fait deux enfants, une fille, un garçon. Donc pour lui, il est hyper content en fait.
Oui.
Essayer de le vivre avec sa femme. Enfin, voilà. Je pense que vraiment, il n'y a pas de mots en fait.
Ouais,
De ce
c'est.
moment-là, je pense que. En tout cas, je ne pourrais pas parler en son nom, mais je pense qu'il n'y a vraiment pas de mots. C'est tellement beau que. Voilà.
Toi, tu appréhendais un peu justement
Oui.
le fait d'être maman. Donc là, ça y est, ce petit être, il est là, il est dans tes bras. Comment se passent les premiers jours de sa vie à la maternité? Est-ce que tu fais les choses de façon innée? Est-ce que tu te sens un peu perdue? Comment t'es accompagnée?
Alors pour mon premier, c'était un peu dur parce que la clinique où j'ai accouché, enfin les personnes n'étaient pas au top en fait, on va dire. Et donc j'ai beaucoup pleuré parce que par exemple j'ai allaité que mon premier. C'était une très mauvaise expérience, je le dis sincèrement. Donc j'ai allaité mon premier et je savais pas le faire. Donc j'arrivais pas à le faire et personne m'aidait et je pleurais parce que j'arrivais pas à nourrir mon fils. Et j'ai une dame le soir qui est venue me voir, qui était très gentille et qui m'a expliqué comment faire, de me calmer, elle m'a expliqué comment prendre le petit, etc. Alors que toute la journée, elle m'avait pas expliqué. Et donc voilà, donc les débuts, c'était pas top. Heureusement que cette dame était là.
C'était une puéricultrice,
C'était une. Alors je pourrais pas te dire,
Non, tu
mais.
sais pas. Après, il y a des aidantes
Voilà,
souvent
c'est
dans les
ça.
hôpitaux pour la mise au sein, des femmes qui sont un peu spécialisées pour ça. En tout cas, elle te permet de mettre ton enfant au sein à ce
C'est
moment-là.
ça. En fait, elle m'avait pleuré. Elle m'a dit, qu'est-ce qu'il y a? Je n'arrive pas à nourrir mon fils. Elle a dit, je vais vous expliquer, calmez-vous. Et ouais. Adorable. Vraiment adorable.
Elle change un peu le cours de
Et alors,
l'allaitement.
c'est oui, elle change le cours d'allaitement. Maintenant, l'allaitement, c'est quelque chose. Alors, pour moi, je parle vraiment à mon nom, qui était quelque chose de très dur.
Ouais, c'était difficile.
J'ai trouvé ça très dur. Alors, effectivement, il y a des personnes qui allaitent leur enfant jusqu'à 56 ans et un grand respect pour ces femmes. Moi, j'en étais incapable. Et d'ailleurs, mes deux autres fils, je ne les ai pas
Ouais, tu
allaités.
décides de pas les allaiter.
Non.
Après, c'est vrai que c'est propre à chacun,
Ah oui.
il y a pas de règles. Le retour à la maison, comment il se passe? Est-ce que tu es confiante? Est-ce que tu as peur? Parce que là, du coup, à l'hôpital, même si pour toi l'expérience a été difficile parce que l'équipe n'était pas spécialement au top, mais ils sont là quand même. Alors que quand on rentre à la maison, bah, ça y est, on est dans le grand bain. Comment ça se passe pour toi le retour à la
Eh
maison?
ben, ça a été tout simplement pour raconter une petite chose. Quand ma mère a su que j'étais enceinte, c'est ce qui nous a rapprochés en fait finalement. Donc, du coup, j'ai pu retrouver le lien avec mes parents
Ouais, j'imagine.
grâce à cet accouchement en fait. Et j'ai eu ma mère qui était là avec moi. Donc, j'ai eu cette chance d'avoir ma mère, mon père et Alan. J'avais pas de crainte. Finalement, les craintes que j'avais avant, en me disant je veux pas d'enfant, j'ai peur, etc. Et ben, j'ai pas eu de crainte. Et finalement, je pense que quand bah, il est là, donc faut faire.
Faut
Donc,
faire.
on n'a pas
Comment?
le choix.
On sait pas, mais.
Donc, finalement, c'est plus après qu'on se dit mais waouh, comment j'ai fait en fait. Mais sur le coup, on se pose pas vraiment de questions parce que le petit, il est là, et il faut s'en occuper. Et puis, on fait les choses en fait, finalement.
Comment vous trouvez votre harmonie avec Alan, du coup, en tant que couple de parents, maintenant au-delà de couple dans la vie? Comment les décisions se prennent? Qui gère les soins, les repas, les bains? Comment ça se passe les 3 premières années?
Au début, c'est compliqué. C'est compliqué parce que faut trouver une harmonie, faut que chacun trouve sa place. Parce que au-delà d'avoir l'enfant, on vivait ensemble pour la première fois aussi,
Ouais, bah oui.
réellement. Donc on avait le fait qu'on vivait ensemble, le fait qu'il y avait un enfant. Donc fallait que tout se mette en place. Donc ça a pris quand même on va dire j'allais dire plusieurs mois, mais on va dire plusieurs années. Et donc ça a été compliqué, hein, comme tous les couples. Hein. Il y a eu des hauts, il y a des bas. Après, c'est de la communication. Voilà, des fois ça va pas, et puis des fois on se parle. Et puis quand on comprend que finalement, pour que le couple tienne, il faut qu'on se parle, qu'on est deux personnes à part entière et que finalement tu es différent, je suis différente, et qu'à un moment donné il faut juste s'écouter, se parler, et que tu ne seras pas comme moi et je ne serai pas comme toi. Donc il faut trouver des comme on dit, des compromis ou des consensus, peu importe. Mais je pense que c'est ce qui fait avancer les choses, ce qui permet de durer
dans le couple.
Combien d'écart il y a avec les frères et sœurs, du coup, comment se passent les autres grossesses? Est-ce que ce sont des grossesses qui sont à peu près similaires?
Alors, le deuxième, donc Meïssa, 2 ans et demi après, c'est Alan qui me disait qu'il fallait plutôt avoir un enfant tout de suite, comme ça ils sont proches, voilà, Kaïs n'est pas seule, sachant que sa sœur n'est pas souvent là, donc voilà, ça évite que Kaïs soit seule. Donc effectivement, le deuxième, on s'est décidé de le faire ensemble, on s'est dit ok, c'est vrai que Kaïs il va rentrer à l'école, autant faire le petit maintenant, comme ça je peux m'en occuper, enfin on peut s'en occuper surtout. Donc voilà, et le dernier... Le dernier, c'est un bébé surprise. Alors moi, je me suis dit, il n'y a plus d'enfants, c'est bon. T'as une fille, t'as 2 garçons, c'est magnifique, j'arrête tout. Et puis le dernier est un bébé surprise.
Et du coup, il arrive avec combien d'années d'écart?
Donc il a 5 ans, 5 ans d'écart avec l'avant-dernier.
D'accord. Donc ouais,
Voilà.
donc là c'est une regrossesse, redécouverte du.
Oui,
On est reparti pour un tour.
Pour les couches et tout. Ah, je vais bientôt en sortir.
Éducativement parlant, comment ça se passe au quotidien? Est-ce que tu as un exemple d'une prise de position que vous avez dû prendre ensemble ou individuellement vis-à-vis de l'éducation des enfants?
Alors, en fait, avec Alan, on se comprend, on a la chance de se comprendre sur l'éducation. Alors, nous, on est très attachés au respect. Donc, la base, le respect, la politesse, etc., ça, c'est une base chez nous pour l'enfant. Après, on laisse vraiment nos enfants être ce qu'ils veulent être. Ça, c'est hyper important et on communique énormément avec nos enfants. Et c'est vrai qu'on se comprend par rapport à ça. Ça veut dire que moi, par exemple, et Alan aussi, hein, moi je me suis convertie, Alan aussi s'est converti, on ne se connaissait pas. Hein. Il s'est converti, il me semble, à 19 ans aussi, comme moi. Et donc, on a changé de religion, on a fait un choix. Aujourd'hui, nos enfants sont musulmans. Mais demain, ils peuvent voilà, nous dire ils veulent changer ou quoi que ce soit. Enfin, voilà. Nous, on se doit de donner une éducation à nos enfants. Celle qui nous semble la meilleure, avec des valeurs, des principes, etc. Mais maintenant, nos enfants seront ce qu'ils veulent être. Et ça, c'est très important. Et on considère que nos enfants nous appartiennent sans nous appartenir, en fait. C'est très spécial de dire ça, parce que ça reste nos enfants, on les protège. On ne veut pas qu'on leur fasse du mal, et puis on va essayer de les mener le plus loin possible. Mais ils ne nous appartiennent pas dans le sens où ils vont faire ce qu'ils veulent, et qu'ils sont des personnes à part entière. Et que demain, ils auront leur position, leur choix. Et sur ça, on se comprend totalement. Et on communique beaucoup, beaucoup, énormément avec eux.
Du coup, ta fille qui vit entre le Sénégal
Oui.
et la France, comment ça se passe? Comment les choses se mettent en place en tant que maman d'une enfant que tu n'as pas mise au monde? Est-ce qu'elle te considère comme une belle-mère? Est-ce que le lien... Elle a 14 ans, en plus elle est dans l'adolescence, donc comment ça se passe avec elle?
Bah, je l'ai connue, elle était petite, elle avait 4 ans, 4, 3 ans et demi, 4 ans. Je l'ai considérée comme ma fille tout de suite, parce que quand j'étais avec Alan, bah, quand je prends Alan, je prends sa fille également. Donc chez nous, il n'y a pas de différence. Hein. Iman, c'est ma fille. Il n'y a pas de différence au niveau d'éducation. Ça veut dire que quand Iman est là, je l'éduque de la même manière que mes enfants. Maintenant, Iman, elle a sa maman, qui l'éduque très bien. C'est une fille qui est très bien élevée. On n'a rien à redire sur son éducation. Et je m'entends très bien avec Imane, sa maman également. Et du coup, quand elle est à la maison, ben, je ne fais pas de différence. Aucune différence, Imane. Tout simplement, par exemple, je vais vous donner un exemple. Quand on a déménagé et qu'on a décidé de prendre une maison, il était hors de question qu'il n'y avait pas de chambre pour Imane.
Bah oui.
Ça veut dire que je ne voulais pas prendre une maison avec une Imane qui va venir, qui va aller dans la chambre de son frère pendant les vacances, en fait. J'avais besoin qu'elle ait son espace à elle et qu'elle se dise que je suis chez moi, même si je ne vis pas toute l'année avec eux. Ça, c'est hyper important.
Ouais, grave.
Et puis, c'est hyper important aussi pour Alan, parce que c'est quand même sa fille. Donc, si moi, à côté, je fais des différences, c'est un mal-être aussi pour lui. Et je n'ai jamais fait de différence. Et puis on est une famille en fait, tout simplement on est une famille.
C'est très beau ce que tu dis et c'est très important parce qu'on sait que la place des enfants dans des familles recomposées, c'est pas évident. Ouais. En plus là, elle vit à l'étranger, donc et au Sénégal, c'est pas les mêmes codes, c'est pas, enfin, c'est, il y a plein de choses qui diffèrent. Donc quand elle arrive à la maison, quelque part, vous faites en sorte aussi qu'elle trouve sa place, enfin qu'elle soit à sa place instinctivement.
Tout de suite.
Est-ce que pour autant, même si elle est bien éduquée et que ça a l'air d'une jeune fille très sage, est-ce qu'il y a des prises de position vis-à-vis des écrans, des temps de sortie, enfin, comment vous trouvez votre équilibre avec une ado et trois enfants un peu plus petits?
Alors, il y a peut-être une petite chose, c'est vrai que y a des décisions par rapport à Iman que je ne vais pas prendre. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'elle a sa maman. Donc, je la considère comme ma fille. Mais il y a des choses, c'est sa mère qui va prendre la décision et ce n'est pas moi, en fait. Et ça, il faut le respecter. C'est hyper important. Donc, il y a des choses où Alan prendra la décision et avec la maman. Et que
un exemple
pas, par exemple, les écrans.
Ouais.
Tout simplement, hein, les écrans. Ou peut-être qu'au Sénégal, elle utilise l'écran énormément ou pas. Peut-être qu'à la maison, quand elle vient à la maison, elle se dit je peux peut-être utiliser un peu plus l'écran. Bon, voilà. Et forcément, il ne faut pas que ce soit une source de conflit, en fait. Et moi, je ne veux surtout pas être la belle-maman embêtante. Surtout pas. Donc, des fois, c'est vrai que c'est Alan qui va plutôt aller lui parler pour lui dire voilà, à l'écran, stop. Là. Je le dis, hein, mais quand je vois que voilà, ça reste une ado. Hein, et il ne faut surtout pas que quand elle va chez son père, qu'elle ne se sente pas bien.
Ouais, c'est ça.
C'est ça. Il faut faire très attention parce que quand on a une famille recomposée et on a des ados, je pense qu'il faut faire très attention à ce que l'enfant se sente bien. Alors, oui, il y a des règles. Dans chaque maison, il y a des règles, c'est comme ça.
C'est...
Mais il ne faut surtout pas que l'enfant se sente mal et se dise « j'ai plus envie d'aller chez papa ». Et surtout ça, et nous, notre rôle en tant que belle-mère, c'est de faire en sorte que l'enfant se sente bien et se dise « j'ai toujours envie d'aller chez papa ».
C'est ça. Et que les décisions, elles soient justes, en fait.
Exactement. C'est toujours tout ça, être juste, c'est hyper important.
Tes enfants, du coup, comment ça se passe la relation avec leur sœur qui est là à mi-temps?
Très proches.
Ils sont proches.
Très proches, ils s'appellent tout le temps. Heureusement, pour le coup, heureusement qu'il y a des écrans. Ils s'appellent. Ouais. Pour ça, oui. Ils s'appellent régulièrement. Ils s'envoient des messages régulièrement. Ils sont très, très, très proches.
Ils sont proches. L'école. On va s'arrêter sur l'école et particulièrement avec toi, Gwen, parce que tu disais tout à l'heure que tu es chef d'entreprise. Qu'est-ce que tu fais justement, c'est quoi ton entreprise, c'est quoi, pourquoi tu t'es lancé dans cette voie-là, est-ce que tu prends quelques minutes pour nous expliquer, parce que ça a une place importante dans l'éducation que tu donnes à tes enfants.
Oui, alors en fait j'ai plusieurs entreprises, mais j'en ai une qui me tient énormément à cœur, qui est une école qui s'appelle Weno US. Donc c'est une école qui délivre des diplômes allant du CAP au master. Cette école, elle est très importante pour moi. Et j'ai voulu la monter tout simplement parce que je suis partie d'un constat, qu'il soit un constat personnel ou professionnel. Hein. Un constat personnel parce que j'étais à l'école et j'ai vu des choses, et un constat professionnel parce que j'ai vu une école qui ne nous ressemblait pas, une école où il y avait de la discrimination, une école où il y avait pas trop de pertinence, on va dire. Et je me suis dit, autant monter cette école nous-mêmes et faire une école qui nous ressemble, en mettant en avant tout ce qui est mixité, diversité, inclusion, et en alliant l'excellence, la discipline et le mérite. Et ça fonctionne. C'est tout simplement pour permettre à tout le monde de pouvoir faire de grandes études avec de grandes entreprises, parce qu'on met en avant l'alternance. Et on arrive à signer de gros contrats avec de grosses entreprises et de permettre à tout jeune ou adulte, parce qu'on a également des adultes, mais de faire de l'alternance sans être stressé. Je ne sais pas si on va pouvoir en parler, mais c'est hyper important de le dire.
L'émission parentalité sera dédiée justement à cette approche. J'imagine que pour Alan et toi, du coup, la place de l'école au sein de la famille, c'est important, la place des études pour tes enfants, comment ça se manifeste, comment ça se matérialise à la maison. Du coup, l'entrée à l'école, comment vous motivez les enfants, comment vous les accompagnez, Est-ce que tu nous racontes ?
Alors, oui, la place de l'école est importante. En fait, alors elle est importante parce qu'on est obligé, je trouve que c'est une obligation de les introduire dans l'école. Après, que ça matche ou pas, ça c'est après. Mais en tout cas, la base, elle est essentielle de pouvoir expliquer aux enfants que l'école, c'est important. À l'école, bah, y a un savoir, tu vas apprendre des choses, tu vas connaître des choses. Et donc, nous, nos enfants, on parle énormément avec eux, bah, surtout après l'école, à savoir ce qu'ils ont appris, ce qu'ils ont fait, s'ils s'y plaisent, qu'est-ce qu'ils aiment, ce qu'ils n'aiment pas au sein de l'école. Et on a un énorme échange sur l'école. Par contre, on ne veut pas qu'ils soient frustrés. Ça veut dire que le deuxième, par exemple, bah, lui, il ne comprend pas pourquoi il y a des devoirs. Il ne comprend pas. Lui, voilà, on va à l'école, c'est bon, là. Il a 7 ans. Pour lui, je vais à l'école toute la journée, le soir, laissez-moi tranquille. Il est totalement différent du premier, mais ils sont différents. C'est-à-dire que le premier, lui, ben, il comprend le soir, il va faire ses devoirs, il va vouloir regarder des documentaires, il s'intéresse à tout, etc. Le deuxième, il est plutôt, alors moi, je dis, il est plutôt artistique. Lui, c'est, voilà, il voit le monde autrement. Et c'est lui, hein, c'est comme je dis... Chacun d'un être à part entière, et nous, on aime ça, en fait. Et lui, il ne comprend pas. Donc, on lui explique parce que bah, l'école, déjà, c'est obligatoire. Là, tu vas y aller. Là, le choix. Hein. Pour l'instant, c'est obligatoire. Et oui, bah, tu dois faire des devoirs pour t'améliorer, pour apprendre des choses, etc. Mais il a du mal à comprendre ça. Lui, pour lui, c'est un enfant, et un enfant, ça doit s'amuser.
OK. Et comment ça se matérialise au quotidien. Ça veut dire, là, je pense à tous les auditeurs qui se disent « Ah ouais, moi, je vois mon enfant, il est clairement comme ça. D'ailleurs, moi, ma dernière, elle est un peu comme ça. Voilà, je vais à l'école, je fais ce que j'ai à faire, je fais mon travail et tout. Mais par contre, quand je suis sortie de l'école, vas-y, laissez-moi jouer. » Mais du coup, est-ce que tu as des outils ? Comment tu fais, en fait, pour que, du coup, bah, il fasse ses devoirs et qu'il essaye de les faire dans les meilleures conditions possibles, parce que l'idée, c'est pas non plus qu'ils fassent leurs devoirs et que ça génère des frustrations, de la colère,
bien sûr,
des larmes.
Bien sûr.
Comment vous procédez, du coup ?
Bah, surtout pas. Déjà, au début, c'était plutôt faire les devoirs dans leur chambre. Après, on a changé la méthode. Tous les enfants sont avec nous dans la cuisine, on est tous autour de l'îlot central, et puis ils font leurs devoirs, et puis on est là, ils nous posent des questions. Et de là, mais ça, pour lui, c'est un jeu. Il se dit, je montre que je sais faire.
Voilà.
Regarde maman, regarde papa, regarde, je sais faire. Et donc, ça change un peu la manière. Donc, on a trouvé cette méthode plutôt... pour Meïssa. Après, on a demandé de l'aide au plus grand aussi, pour dire regardez-lui que c'est bien ce qu'il fait, etc. Et il nous aide quand même, et donc Meïssa, il trouve une autre manière. Mais bon, ça passe. Après, il se dit
c'est
pas en 5 minutes, vous n'allez pas m'avoir, je ne comprends pas pourquoi je fais des devoirs.
Mais au moins vous avez trouvé une stratégie pour que ça ne soit
facile,
pas non plus un moment
douloureux.
C'est pas
facile,
douloureux,
mais bon, on essaye que ce soit un peu plus ludique, on essaye de voilà, de toute façon, il n'a pas le choix.
Oui.
Donc, il faut que nous, on essaye de trouver des manières où ils se disent, bon, ça va, c'est cool quand même. C'est cool.
Pendant le Covid, tes enfants, ils étaient scolarisés, mais là, ça sera un peu plus pour le plus grand, peut-être.
Le deuxième aussi.
Le deuxième aussi. Oui. Comment ça se passe, l'école à la maison, l'instruction à domicile ?
C'était top. Alors, c'était moins top pour moi. Voilà. Mais c'était top pour eux parce que, bah, ils ont adoré faire l'école à la maison.
Ils ont adoré
faire l'école à la maison. Pour eux, c'était top. C'est vrai que leurs copains manquaient forcément, mais l'école à la maison, c'était la meilleure école pour eux.
C'était la meilleure école.
Après, nous, c'était très dur. mais voilà, c'était un moment en famille, un autre moment totalement différent. D'ailleurs, il y en a qui le font réellement. Il y en a qui font vraiment l'école à la maison.
C'est pour ça.
Et c'est du travail. Mais c'est pour mes enfants, c'était une bonne expérience en tout cas.
Les rendez-vous, est-ce que tu es impliquée dans la scolarité de tes enfants à l'école ? Est-ce que tu es une maman impliquée, parent d'élève, pas parent d'élève ? Comment tu suis un peu leur scolarité et la vie dans l'école de tes enfants ?
Alors, je suis pas parent d'élève, par contre, je suis quand même impliquée dans ce qui se passe à l'école. Ne serait-ce que par rapport à mes enfants, je leur demande toujours, tous les soirs on a une discussion par rapport à l'école. Je donne un exemple, hein, mon premier, lui il est un peu, il travaille très bien, Mais bon, comme il finit vite, il perturbe un peu les cours. Hein. Mm. Et donc souvent, il a des petits mots. Donc effectivement, je ne laisse pas ça forcément passer. Et c'est vrai que je m'implique. Je vais quand même voir sa maîtresse en lui expliquant que voilà, va falloir qu'on trouve une solution parce qu'il n'a pas à perturber votre cours. On est d'accord. Et j'essaye de faire en sorte que Caïs trouve sa place également. Parce que bon, c'est... Alors, souvent, je dis que ce n'est pas de leur faute, ça reste des enfants. Ça reste des enfants. Mais voilà, il y a une maîtresse en face et elle n'a pas qu'un enfant. On en a 20. Et eux, malheureusement, ils ne peuvent pas individualiser quand ils sont petits. Ça, c'est plus après les écoles comme les nôtres, où nous, c'est notre devoir d'individualiser et ça, on en reparlera après. Mais voilà, on est obligé de parler à l'enfant et on est obligé d'aller voir la maîtresse et s'impliquer et aider. Aider la maîtresse, parce que sinon, voilà, aujourd'hui, je vois des choses où bon, c'est un autre débat, hein, mais je vois des choses aujourd'hui où les parents, dès qu'on met un mot à leur enfant, non, c'est mon enfant, vous ne touchez pas mon enfant, voilà. Mmh. Non, en fait, à un moment donné, l'école, il y a aussi un respect à avoir au niveau des maîtresses, etc., tant qu'elles sont bien. Mmh. Moi, je sais que l'école où sont mes enfants, tout se passe bien. Maintenant, mon enfant, quand il perturbe l'école, bah, c'est la classe. Bah, c'est lui qui perturbe la classe. Hein. Je ne vais pas en vouloir à la maîtresse, quand même.
Et qu'est-ce que vous mettez en place, du coup, à la nettoie avec lui, quand, bah, du coup, il a perturbé la classe et que...
Alors, je pense que beaucoup ne seront pas d'accord avec nous, mais il y a des petites punitions. Ouais, hein, mais... Nous, on le faisait avec les parents, c'était écrire des mots, soit des mots d'excuses et de les donner à la maîtresse ou au corps pédagogique. Et ou sinon, bah, des fois, on écrit une phrase, peut-être toute la page, 20 fois, etc. Je ne dois pas. Voilà, c'est les solutions qu'on a trouvées. Et comme je dis, hein, je répète, mais c'est beaucoup communiquer. Expliquer vraiment aux enfants, voilà, il y a des choses. Le respect, c'est hyper important. Le respect, pour moi, se perd. Et c'est hyper important d'expliquer ce qu'est le respect aux enfants et que l'école, c'est important et on se doit de respecter. C'est bah, le corps pédagogique, en fait, tout simplement.
Tu disais, en souriant, il y en a qui ne vont pas être contents, mais la sanction a du bon.
Il n'y a pas de mode d'emploi, de toute façon.
Voilà, il n'y a pas de mode d'emploi, mais la sanction, elle est quand même importante parce que la société, elle sanctionne.
Exactement.
Elle sanctionne quand on commet un délit, quand on fait une infraction, voilà. Du code de la route jusqu'à le civil, le pénal, voilà, les sanctions ne sont pas à bannir. Après, ce qu'on essaye, en tout cas, au mieux, c'est d'essayer de les rendre constructives. C'est-à-dire sanctions de réparation, avec, comme tu dis, de la communication, etc. Et je pense qu'aujourd'hui, en tant que parents, bah, des fois, on est démunis, on veut mettre en place une sanction. Alors, on a bien en tête les sanctions qui vont être complètement à proscrire parce que châtiment corporel, etc. Mais de l'autre côté, des fois, on est démunis. Tu vois, tu parlais des lignes. Nous, on a grandi avec des pages et des pages de lignes à écrire. Qui font pas sens tout le temps parce qu'en fait on recopie voilà, mais quand on a que ça, on fait
ça.
Avec ce qu'on a, donc l'idée c'est pas de juger, ouais. Et c'est surtout la communication que tu vas mettre en place avec ton enfant qui va lui permettre de réfléchir.
Voilà. Ou de la privation, mais de la privation, quand je parle de privation, c'est des jeux. C'est des jeux, c'est ou des fois, ça c'est rare, c'est le sport, mais le sport c'est important pour l'enfant. Mais c'est vrai que, par exemple, Caïs, le foot, c'est waouh, c'est hyper important. On lui enlève une journée de foot et des fois, bah, c'est ça. Si on continue, bah, tu iras pas à ton foot en fait.
Et puis tu vois, tu parlais de controverses, il y en a plein qui disent mais on peut pas sanctionner un enfant de sport parce que c'est son équilibre, c'est son bien-être, etc. Ouais, ok, sauf qu'en attendant, bah, quand
le bien-être de l'école et de ses collègues, c'est aussi important.
C'est aussi important. Et du coup, quand un enfant peut se voir privé d'un match parce qu'il respecte pas les règles, bah, des fois ça remet les curseurs à leur place.
Exactement.
Tout à l'heure, tu parlais, bah, et on est en train d'en parler là encore, des valeurs. Quelles sont les valeurs dans la famille Montero? Quelles sont les valeurs chez vous?
Alors nous, nos valeurs, c'est le respect. Surtout, on a une valeur de respect, d'intégrité, on va dire d'éthique. Vraiment, on veut grandir dans on s'écoute, on se respecte, on respecte son prochain. Et on apprend à nos enfants cette partie sociale, à se dire, bah, tu vas... grandir avec des gens qui vont être différents, parce que on en reparlera tout à l'heure, mais il y a notre éducation, puis il y a l'éducation extérieure, l'environnement. Et on se dit, bah, voilà, nous, c'est nous la base. On doit en fait donner, transmettre des valeurs, des traditions aussi. Des valeurs, des traditions et plein de choses à nos enfants qui vont leur permettre de se développer dans le monde extérieur à la famille, tu dis bien. Et donc, nous, c'est ce qu'on met, c'est ça les valeurs. C'est vraiment de grandir dans quelque chose où il y a le respect, beaucoup d'amour et de communication. Voilà. En tout cas, on essaye.
Est-ce que tu as un exemple d'un moment où tu as dû justement faire appel à ces valeurs et expliquer ? Parce que les enfants, il faut qu'ils les comprennent, il faut qu'ils les intériorisent, enfin s'ils l'acceptent, et puis après pour pouvoir le redistribuer et que ça soit un fonctionnement logique. Est-ce que tu as un exemple avec, de l'un de tes quatre enfants qui aurait pu poser un acte qui était complètement, mais pour vous, mais insensé, quoi, le truc où...
Bah, ils sont petits, donc il n'y en a pas trop, mais il y en a eu hein, à l'école où on nous a dit que voilà, il avait répondu, où il regardait... on lui parle, il regarde, il lève les yeux au ciel, genre je t'écoute pas. Je me suis déplacée, et il a écrit une lettre d'excuses et on lui a expliqué déjà de base. Il a écrit sa lettre lui-même et il est excusé et qu'effectivement qu'il ne le refera plus. Et ça, c'est... Mais après, ils sont petits. Comme on dit, petit enfant, petit problème, grand enfant, grand problème. Donc, exactement. Là, ils sont petits, donc ils font pas. Ils sont... J'ai de la chance d'avoir des enfants très respectueux. J'ai de la chance d'avoir des enfants qui écoutent et qui comprennent ces valeurs-là. Mais maintenant, ça reste des enfants, ils sont pas parfaits. Voilà, des fois, ils font... Je dirais pas que c'est des fautes. Ils sont des enfants, ils font des choses. Il faut juste que nous, on remette le curseur là où il faut. Et puis, c'est tout. Et puis, tu repars... comme il faut, en
comme
fait.
Sur des roulettes.
Ouais, voilà. Et puis, d'ailleurs, ils ne l'ont plus jamais refait derrière, en fait.
J'avais envie de te poser une question. Aujourd'hui, avec tes enfants, vous vivez dans un milieu rural, une cité, une zone pavillonnaire. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu l'environnement, le contexte environnemental dans lequel vous vivez ? Parce qu'il y a beaucoup de sujets sur ça, sur l'éducation qu'on donne à nos enfants et puis l'éducation de l'extérieur, de l'environnement.
Bien sûr.
Est-ce que tu peux nous planter un peu le décor de là où vous vivez ?
Alors là, aujourd'hui, on vit à la campagne.
Okay.
Donc, ça fait un an qu'on a déménagé et qu'on vit à la campagne. Moi, de base, je suis une fille de la campagne.
Ouais.
Je viens de la campagne, Tourigny-Fouillère,
en Bretagne,
près de Rennes. Donc voilà, et Alan, il vient de la cité, il vient de Gagny, 93.
Okay.
Vraiment deux environnements différents et qui fonctionnent très bien ensemble. Aujourd'hui, on vit à la campagne. Donc c'était un choix. Alors moi, c'est vrai que je voulais revenir à la campagne. Au début, Alan, c'était très dur parce que lui, il a grandi en cité et puis pour lui, c'est très bien la cité. Voilà. Et au fur et à mesure, ça fait quand même plus de 10 ans qu'on est ensemble. Au fur et à mesure,
vous avez vécu où ?
Alors, on a vécu donc, à Gagny, après, on a vécu à Ablon-sur-Seine, près de Villeneuve-Saint-Charles,
ouais.
Dans le 94. Après, on a vécu à Melun et après, là, on est près de Meaux.
D'accord.
Près de Meaux, une campagne près de Meaux. Et donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, Alan ne se voit plus
retourner
en cité. Ça a été très dur hein, de sortir de la cité. Ce que je comprends parce que y a une... Surtout avant, il y avait cette solidarité, le fait de rester ensemble, etc. Mais finalement, quand il en est sorti, il se dit il y retourne. Hein. Il y a sa maman qui est encore là-bas, etc. Mais finalement, même lui, il le dit, pour l'éducation de ses enfants, c'est mieux, en fait. Parce qu'au moins, ses enfants ont moins de tentations, finalement. Et c'est pas la même chose, en fait. C'est pas la même chose. Moi, je retrouve, en fait, la compagne comme moi, j'avais eu quand j'étais petite. Et lui, c'est vrai, des fois, il en rigole. Il a dit, c'est marrant, c'est comme ça. Voilà. Nous, c'était pas comme ça à l'époque. Voilà.
Et du coup, ce choix pour les enfants, donc tu l'as dit entre les lignes, parce que moins de sollicitations, moins de tentations, en tout cas,
bien sûr.
Que dans certains quartiers. Qu'est-ce que pour vous, c'était quoi la promesse ? Enfin,
pas moins d'élèves, surtout.
Moins d'élèves.
Alors, faut savoir que nous, on est dans une campagne où il y a moins de 1000 habitants.
OK.
Donc, il faut savoir que c'est une école vraiment à l'ancienne. vraiment une école à l'ancienne et il n'y a pas beaucoup d'élèves et on est très proche des professeurs, enfin maîtres, maîtresses, etc. Mmh. Et de la directrice, on peut les voir, on peut parler avec eux assez facilement. Et puis la communication est beaucoup plus simple et on peut plus facilement, je trouve, suivre l'éducation scolaire de nos enfants. Mmh. Et puis ils ne sont pas beaucoup. On va pas avoir des groupes de 20, 25, qui sont très peu. Et c'est important.
Donc c'est une qualité.
Oui, c'est une grosse qualité. Hein, mmh.
Au sein du village aussi, est-ce que du coup, c'est comme... moi, j'ai jamais vécu à la campagne. Est-ce que c'est comme on l'imagine, les gens se connaissent, du coup, on connaît un peu tout le monde dans le patelin et quelque part, il y a cette coéducation qui se met en place naturellement avec les enfants du village ou est-ce que pas du tout?
Alors, nous, on habite dans un village, mais on habite dans un hameau du village. Donc, d'accord. On est vraiment encore plus éloigné.
Encore plus éloigné. Toi, tu ne peux pas t'éloigner plus
non,
que
voilà,
plus.
Nous, on est dans un hameau en plein milieu d'un champ. Donc, on n'est pas beaucoup de maisons. Donc, on n'est pas souvent là. Les enfants sont à l'école, nous, on travaille. Après, bon, les anniversaires, il y a les copains, etc. Ils se voient, mais c'est plus comme avant, en fait. Mm. Ça veut dire que moi, je viens de la campagne, on se connaissait tous. Mm. On se connaissait tous. Et aujourd'hui, les gens, alors autant, je sais pas, on est très individualiste.
Ouais, ouais. C'est sociétal.
Ouais, voilà, c'est ça. Et en fait, même si on habite à côté, eh ben, on ne connaît pas forcément son voisin. Donc nous, on essaye quand même, notre voisin, on le connaît. On s'est même échangé le numéro de téléphone en cas de problématique, etc. Mais c'est vrai que c'est plus comme avant, en fait. Les gens ont peur. Je peux comprendre, les gens ont peur, les gens restent chez eux, les gens n'ont pas forcément envie de fréquenter les voisins, etc. Mais par contre, voilà, on se dit bonjour,
ouais, c'est
etc.
du respect c'est mutuel, du respect, quoi. Ou de la cordialité.
C'est très cordial, voilà, c'est ça, c'est très cordial, mais ça s'arrête là.
Ok.
Ça s'arrête là.
Tes enfants étant noirs, du coup, à la campagne, ça se passe comment? Parce que moi, je me souviens d'une maman qui hésitait à aller en campagne et du coup qui a revu son projet, mais parce que préjugé. Parce que l'impression que ses enfants allaient subir encore plus de plein fouet le racisme, la différence. Elle avait peur de ne pas pouvoir s'intégrer, etc. Et du coup, je trouvais ça dommage et on en a discuté pendant des heures avec cette maman, mais... de renoncer à un projet de vie parce que peur que nos enfants soient encore plus rejetés et trouvent encore moins leur place. Est-ce qu'on s'arrête sur ça 5 minutes dans le village dans lequel tu vis, est-ce que ça se manifeste? Est-ce que tes enfants ont essuyé des remarques?
Alors, Alain avait le même préjugé. Il ne voulait pas partir en campagne. Moi, j'ai grandi en campagne, donc... j'ai pas rencontré énormément de problématiques dans ma campagne. Moi je me suis jamais posé la question. On a habité en campagne. Je me pose pas la question en me disant je suis noire. Ça a peut-être posé des problèmes en fait. Non, je suis en France, je suis chez moi, j'ai le droit d'aller où je veux. Donc si j'ai envie d'habiter en campagne, j'habite en campagne. Et puis voilà, je me mets aucune barrière en fait.
Mais est-ce que tu comprends ces gens qui ont des réticences?
Je comprends, mais je pense qu'il ne faut pas. Parce que s'il y en a, alors il y a eu, je ne vous cache pas que dernièrement, il y a eu une problématique avec un de mes fils à l'école. Clairement, il y a une de ses amis, de ses camarades qui a dit, voilà, tu es un caca. Bon, voilà, on a tous vécu. Et c'est très grave. Mais bon, quand ça arrive, eh ben, moi, je pense qu'il faut tout de suite en parler. Bon, effectivement, moi, j'ai fait un roman. Clairement, j'ai fait un roman, j'ai dit clairement qu'il règle ce problème parce que voilà, mes enfants n'ont pas rentré chez moi en étant frustrés ou quoi que ce soit. Je ne veux pas que mes enfants ressentent quoi que ce soit. Mmh. Ça veut dire que soit vous réglez le problème, soit nous on réglera le problème. Mais c'est vrai que dans cette école, ils ont réglé le problème tout de suite. La petite, elle a fait un mot d'excuse, son père a également dit un mot d'excuse, etc. C'était réglé très rapidement. Et moi, je pense que dès qu'il y a une problématique, faut la résoudre tout de suite. Maintenant, c'est facile d'en parler parce qu'il y a des écoles où ça se passe pas comme, du tout comme ça. Mmh. Et j'en ai vu, hein, on en voit sur les réseaux sociaux où il y a clairement du racisme.
Mais même des écoles en banlieue.
Oui, même des écoles en banlieue. Mais c'est pour ça que je pense qu'il faut pas dire que la campagne. Parce que finalement, moi, là, au niveau de l'école, je n'ai aucune problématique. je pourrais en avoir. Je ne sais pas. Hein. Je ne dis pas parce que je n'en ai pas aujourd'hui que demain, mon fils ne va pas être confronté à quelque chose de très grave. Parce que ce n'est peut-être pas forcément l'école, c'est peut-être forcément peut-être un professeur qui va arriver demain et qui va créer une problématique auprès de mes enfants. Mais je pense qu'il ne faut pas se mettre de barrière et qu'il ne faut pas, annuler un projet de vie en se disant, en se mettant des barrières parce que je suis noire. Parce que non, non, non. Et aujourd'hui, on le voit en campagne, il y a beaucoup plus de noirs ou d'autres maghrébins ou autres. Hein. Aujourd'hui, voilà, les campagnes, il y a du mélange et c'est beau.
En tout cas, merci pour ça parce que je pense que c'est important,
c'est très important.
De pouvoir le souligner par moment et casser les préjugés, les a priori. Et des fois, on en parle alors qu'on ne l'a pas vécu et toi, tu le vis. Donc, c'est encore, ça résonne différemment.
Et je veux juste te dire qu'il ne faut pas se sentir gêné en fait, parce que souvent on a ce, je dirais même le syndrome de l'imposteur en se disant bah, je ne peux pas être là, je n'ai pas le droit d'être là, il faut arrêter ça, on a le droit d'être où on veut et chacun a le droit d'être où il veut. Et du coup s'il y a une problématique, il faut la régler
sur l'instant T.
Est-ce
que du coup pour la parentalité c'est aussi le mot d'ordre de se dire que les problèmes il y en aura tout le temps, mais il faut régler les choses sur l'instant T?
Oui, les problèmes, on en aura tout le temps. Il faut régler les choses à l'instant T. Maintenant, tout n'est pas facile. Hein. Il y a des problèmes, il y a problèmes et problèmes.
Hein. C'est vrai.
Moi, je n'ai pas encore rencontré des problèmes qui me demandent d'aller jusqu'à la justice, par exemple. Donc, c'est facile de parler. Mais il y a des personnes qui sont obligées d'aller jusqu'au tribunal, on est d'accord. Donc, je dis, il y a problèmes et problèmes. Mais par contre, il faut régler les problèmes. Mais par contre, on n'a pas à se mettre de barrière et se dire, bah, je préfère ne pas aller. Donc, limite, je n'ai pas le droit d'aller là-bas. Mais non, en fait.
Merci, Gwenola. Avant de rendre l'antenne, j'aimerais te demander, est-ce qu'il y a quelque chose que tu souhaites partager avec les auditeurs? Est-ce que voilà, tu as envie de dire quelque chose? Est-ce que tu as une pensée?
Non, ce que j'aimerais juste te dire, c'est par rapport au lien parent-enfant, c'est mettre en avant beaucoup la communication et l'amour. Je pense que c'est hyper important que les enfants grandissent dans de la communication et de l'amour.
Ben, c'est un excellent mot de la fin. On arrive à la fin. Une heure, ça passe très vite. Je te remercie de nous avoir fait confiance.
C'est moi qui te remercie.
Merci pour ce témoignage. On remercie Mon Paris FM. Vous pouvez nous retrouver sur Mon Paris FM le vendredi. Mais vous pouvez également nous retrouver sur toutes les plateformes de téléchargement. Merci à tous. À bientôt. Et surtout, personne ne doit rester à l'arrêt. Ciao.